Radio G 101.5 FM.
Nous sommes lundi, il est 19h, l'heure de retrouver votre dose hebdomadaire de 9e art préféré. C'est bien entendu la case de Seb. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Nouveau lundi, nouvelle émission sur le 101.5 de Radio G. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle case de Seb dans laquelle je vais bien entendu projeter dans votre esprit les plus belles images issues de la BD, du manga et du comics par le truchement des ondes radiophoniques. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous entamez cette semaine avec le sourire malgré un temps qui s'annonce plutôt maussade. Une nouvelle émission enregistrée depuis mon domicile dans laquelle je vais vous présenter mes dernières lectures. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie pendant l'heure qui suit. Trêve de bavardage, attaquons tout de suite avec les news. Ce grand monsieur à qui l'on doit d'avoir redoré le blason du chevalier noir à la fin des années 60 nous a en effet quitté il y a quelques jours. On lui devait, en compagnie de Neil Adams, un renouveau de Batman avec des récits plus sombres, de vraies enquêtes de détectives et une nouvelle série de super-vilains dont les méfaits perdurent jusqu'à nos jours. On lui doit également l'invention du concept des Transformers et le nom du plus emblématique d'entre eux, Optimus Prime. On lui doit également un récit moins habituel comme le combat de boxe légendaire qui opposera Superman contre Mohamed Ali. Comme on dit, ciao l'artiste, et encore merci. On enchaîne avec le pays du soleil levant et l'annonce d'une série animée pour le dernier manga de l'auteur Hiro Mashima. Celui-ci vient en effet d'annoncer sur Twitter que sa série Eden Zero, actuellement pré-publiée par le Weekly Shonen Magazine, allait connaître une adaptation animée. Ce n'est d'ailleurs pas le seul projet du mangaka à qui l'on doit déjà Fairy Tail, puisque le héros de cette dernière série, de Eden Zero et de Rave Master, l'autre série du mangaka, devront bientôt avoir l'occasion de se rencontrer lors d'un crossover qui sera sobrement intitulé Heroes. Toujours au Japon et toujours au niveau animation, c'est l'œuvre Shaman King d'Hiroyuki Takei qui aura le droit à une nouvelle adaptation animée. Prévue pour avril 2021, cette nouvelle série devrait se baser sur les 35 volumes qui composent la nouvelle édition du manga. Ce sera donc la deuxième adaptation en animé de ce manga qui a connu ses heures de gloire sous nos latitudes. En effet, suite à une baisse de popularité, le manga avait connu une fin prématurée en 2004, avant que son auteur ne se décide à proposer la fin initialement prévue à travers des chapitres inédits. À partir de 2012, ce sont plusieurs spin-offs ou suites directes de la série qui vont connaître une publication, dont Shaman King Flowers, en 6 volumes, qui est la suite directe de Shaman King. Ce sera l'occasion sans doute de redémarrer la série afin de conquérir un public trop jeune pour l'avoir découverte alors. Toujours au Japon avec une adaptation en live action cette fois-ci et un coup double. En effet, le manga The Promised Neverland, dont nous vous avons déjà parlé dans cette case de Seb, va avoir droit à non pas une mais deux adaptations en prise de vue réelle. Si l'une d'elles sera réalisée au Japon dans la grande tradition des adaptations de manga, d'ailleurs elle fait déjà parler d'elle-même, puisque l'un des personnages de couleur noire à la base a été remplacé par une actrice japonaise qui a pu faire grincer quelques dents, l'autre a été commandée par la plateforme Amazon Prime. Alors si on ne sait pour l'instant pas grand-chose des acteurs qui seront sélectionnés dans cette série, on sait d'ores et déjà qu'elle a été confiée aux bons soins de deux talents ayant déjà œuvré sur le fabuleux film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Cette histoire d'enfants destinés à devenir de la nourriture pour des créatures abominables ne prêtera sans doute pas à autant de délire que Spider-Man. Je ne doute pas qu'il y aura cependant beaucoup de surprises sans que ce soit une adaptation strictement identique à sa version manga ou encore la version animée. Si aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, l'année à venir devrait largement nous contenter puisque la saison 2 de la série animée devrait poindre son nez quelques mois d'intervalle. Allez, je sais pas vous, mais moi j'avoue que je suis très curieux de découvrir ces différentes itérations d'une même histoire. Un petit tour maintenant du côté du pays de l'oncle Sam avec quelques news comics. Alors, les fans de Slip par-dessus les collants doivent être aux anges puisque Henry Cavill devrait reprendre celui de l'homme d'acier dans une future itération cinéma. Alors, vous savez, le slip caché sous le collant maintenant, suite au redesign du personnage. Si ce dernier n'a pour l'instant rien confirmé, l'accord vient pourtant d'être signé pour une prochaine production incluant Superman avec les traits de Cavill. C'est ce que annonçait Zack Snyder lors d'une rencontre avec les fans vidéo. Man of Steel n'étant actuellement pas annoncé par la Warner, et puis Justice League 2 ayant été avorté hein, suite au départ du Dee Snyder du premier opus, difficile de se prononcer sur ce que sera réellement ce futur film. Je profite d'ailleurs pour signaler que les films actuellement disponibles sur la toute jeune plateforme HBO Max sont regroupés sous l'appellation DC Extended Universe, une appellation qui jusqu'à présent n'était pas l'appellation officielle utilisée par la Warner. Alors de là à imaginer un Justice League 2 relancé suite à la sortie du Snyder Cut, il n'y a qu'un pas que je n'oserais pas encore franchir. Mais j'avoue que je croise quand même pas mal les doigts, ce serait super cool d'avoir un univers étendu d'essai qui fonctionne. Enfin je sais pas vous, hein, moi ça me donne vraiment envie de voir. Allez, on reste du côté des États-Unis. Pouvez-vous me donner le lien entre les policiers, le mouvement Black Lives Matter et le Punisher ? Non ? L'histoire elle est plutôt simple. Depuis plusieurs années, de nombreux policiers américains arborent sur leur voiture, uniforme ou gilet pare-balles le crâne si caractéristique utilisé comme logo par Frank Castle. Cette utilisation du logo du Punisher est pour le créateur du personnage, Jerry Conway, une absurdité sans nom. En effet, pour lui, comment la police peut-elle s'identifier à un personnage qui est un hors-la-loi capable de mener une justice aussi expéditive que violente ? D'ailleurs, dans un épisode du Punisher de juillet 2019, le personnage s'adressait à un policier qui arborait sur son véhicule son logo de la façon suivante. « Si vous tentez d'agir à ma manière, je viendrai vous trouver. » Ce message était non pas dissimulé, mais directement adressé au personnel des forces de l'ordre qui utilisait de façon abusive le logo du personnage. Quand on sait que le personnage tient plus du psychopathe surarmé que de l'agent de police sur lequel on peut compter, le message est en effet plutôt clair. Et pourtant, lors des différentes manifestations qui se multiplient depuis le décès de George Floyd, il a été constaté à de nombreuses reprises des forces de l'ordre arborant toujours la fameuse icône. Cette représentation semble être arborée du côté des policiers en soutien au mouvement Blue Lives Matter, qui lui souligne que des policiers sont aussi victimes de crimes. Alors si sur le plan légal il est visiblement compliqué pour Disney d'empêcher ses policiers d'arborer le symbole, Jerry Conway lui a fini par prendre les armes et a choisi de lutter sur le plan graphique en proposant des t-shirts détournant son logo au profit du mouvement Black Lives Matter. Ces t-shirts sont d'ailleurs disponibles en financement en ligne. Je vous laisse chercher Black Lives Matter Skulls for Justice et vous devriez trouver la fameuse boutique. On termine avec un petit tour du côté de l'Hexagone où un nouvel éditeur vient de voir le jour. Fruit de la collaboration du groupe Editis et de l'éditeur Jungle, l'éditeur Phileas vient de poindre le bout de son nez. Cet éditeur consacrera ses publications à des adaptations de romans et des créations originales issues de la collaboration de plusieurs auteurs stars du groupe Editis. Alors, je ne reprendrai pas l'imposante liste des titres de lancement dévoilés, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter sur internet, mais je ne résiste pas au plaisir de vous en nommer trois qui semblent pourtant prometteurs. Il y aura l'adaptation du roman de Michel Bussy, Gravé dans le sable, par Jérôme Derache et Cédric Fernandez, mais également le Syndrome E de Franck Tilliez, qui sera lui adapté par Sylvain Runberg et Luc Brahi. L'Agence des Invisibles, quant à lui, avec un scénario de Sylvain Runberg et Marc Lévy, avec SP au dessin, sera une création originale. L'éditeur Phileas est sans doute un éditeur à bien surveiller, puisqu'on devrait avoir des choses de qualité. Je vous propose qu'on se fasse une courte pause musicale avec sans doute l'un des derniers chansonniers français dont l'humour n'est plus à prouver, avec Pierre Perret et Les Confinis.
Comment aider ces pauvres gens qui agonissent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer Burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de macchabées. Les cherchez pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés quand redoutait d'être in fine déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille faut les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades remplies d'avis et conseils en poulet. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Il y avait le raout, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphorus. D'après lui, il n'y a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette. Il y en a qui pensent qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Soir aux infos, y'a le ton du lot de sadique qui compte les morts et puis y'a le défilé des professeurs, des stars, des scientifiques, et puis le rouquin, la merloc, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Les infirmières qui gagnent des clopinettes, même pas au SMIC, galèrent à tour de bras. On récompense nos courageuses causettes d'applaudissements, de médailles en chocolat. Mes petits marquis, vous devriez avoir honte, la dignité chez vous, elle est en deuil. Pas une seule de vos promesses à la gomme ont un jour consolé leur portefeuille. Vous nous avez confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, mais vous vous resterez pour la vie déconfinés.
Radio G 101.5 FM.
Vous venez d'écouter Les Confinis de Pierre Perret sur le 101.5 de Radio G. J'espère que cela vous a fait au moins sourire, si ce n'est ironiser. Une nouvelle chronique, une nouvelle façon de faire, je ne sais pas. On va essayer régulièrement maintenant de brosser un petit peu quelque chose qui a déjà eu une influence importante en termes de bande dessinée, à savoir un dossier thématique sur une bande dessinée qui compte plusieurs albums et qui sort une actualité. Allez, avant de commencer ce premier dossier, est-ce que certains d'entre vous ne connaissent pas la série Les Légendaires ? Ouais, ok, visuellement, il n'y a que moi qui lève la main. Hein. Alors oui, je dois l'avouer, jusqu'il y a seulement quelques mois, je n'avais jamais lu une seule case des Légendaires. Bon, je vous rassure, c'est maintenant chose faite et j'ai largement eu l'occasion de rattraper mon retard. C'est pourquoi je vous propose ce soir ce dossier que j'espère exhaustif, vu la taille de l'œuvre en question. J'ai fait de mon mieux afin de ne pas oublier d'aborder certains sujets, et si c'est le cas, ne m'en voulez pas. Commençons par le commencement. À l'origine, Patrick Sobral, le créateur de la série, est décorateur sur porcelaine dans la région de Limoges. Passionné par le 9e art depuis l'enfance, il décide de participer au concours Tsuki Sélection des éditions Tonkam en 1999. Le projet que Patrick Sobral présente sur la thématique des anges, Dynameis, se retrouve publié avec les 10 autres lauréats dans un recueil. Fort de ce succès, il décide alors de quitter son métier, exercé pendant 12 ans, pour se lancer dans la bande dessinée. En 2003, il signe alors avec les éditions Delcourt la publication des Légendaires. Le succès sera immédiat. Le graphisme qui puise ses origines dans le manga offre un dynamisme et une identité qui plaît fortement au jeune public auquel il s'adresse. Le fait que le héros ait également des physiques infantiles renforcera l'identification au personnage d'autant plus forte, aidant sans doute à conquérir encore plus un public pourtant assez exigeant. Alors je vais vous dresser un portrait général de cette série et des différents éléments qui gravitent autour. Des spin-offs, bien entendu, mais également d'autres choses moins attendues. Alors commençons avec la série principale. Initiée en 2003, donc, cette série prend place dans le monde d'Alizia, un monde d'heroic fantasy peuplé en majorité par des humains, mais également par des elfes originaires, eux, du monde d'Astria. Dans ce monde, les légendaires sont un groupe de héros mythiques luttant pour défendre les habitants d'Alizia des créatures maléfiques qui y rôdent. Le groupe des légendaires est composé de 5 membres. Danaël, un chevalier humain, ancien membre des Faucons d'Argent, un groupe de chevaliers d'élite du royaume de l'Arbos. Jadina, une princesse magicienne héritière du royaume d'Orkilia. Griff, l'impulsif et blagueur jaguarian, une race hybride mi-homme, mi-bête. Razia, un colosse originaire de Rimar, dont le zozotement et la rondeur cachent en fait une force phénoménale. Et enfin, Shaimi, une elfe au rare pouvoir élémentaire capable de fusionner avec les aimants, d'où elle tire ses pouvoirs. L'antagoniste principal de nos 5 héros est le sorcier Darkael, une engeance maléfique dont la principale occupation est la conquête et l'asservissement d'Alizia. Fatigué de nombreux affrontements et dans ses derniers retranchements, le maléfique sorcier va utiliser la magie de la pierre de Jovenia, une pierre ayant servi à la création du monde afin de retrouver jeunesse et puissance pour lutter contre les légendaires. En intervenant pour contrecarrer les plans de Darkael, ces derniers vont interrompre le rituel magique qui brisera alors la pierre, inondant Alizia et Astria d'une énergie incontrôlable. Cette déflagration magique aura pour effet de faire revenir en enfance les populations des mondes elfiques et humains. Considéré comme responsable de cette catastrophe, baptisé l'incident Jovenia, les légendaires sont bannis et finissent par se séparer. 2 ans après l'incident Jovenia, Danaël, l'ancien chef des légendaires, tente de reformer le groupe afin de partir à la recherche de pierres capables d'inverser l'accident Jovenia et de regagner un âge adulte, et ainsi se racheter une conduite. Vous l'aurez sans doute déjà remarqué, mais le scénario offre une introduction plutôt efficace tout en proposant un univers déjà dense. En accompagnant les héros, le lecteur va découvrir rapidement Alizia et Astria et les intrigues qui continuent d'avoir cours dans ce monde chamboulé par une nouvelle jeunesse. Rapidement, les jeunes héros vont découvrir, et ce sera sans doute mon seul spoil de cette chronique, que Darkael est toujours vivant et bien décidé à faire passer un ou plusieurs sales moments aux légendaires. Au fil des 22 tomes déjà publiés, le style graphique de Sobral a pu nettement évoluer, confirmant que son trait hybride, qui puise fortement dans l'inspiration manga, n'y est pas pour rien dans le succès de la série. Les couleurs pop et chatoyantes augmentant le côté enfantin et cartoon de l'ensemble. En effet, l'action est fluide et la mise en page dynamique, rendant la lecture aisée même pour un enfant débutant la lecture ou n'ayant pas les codes de la bande dessinée. L'histoire n'est pas en reste puisque Patrick Sobral sait manier les rebondissements et les retournements de situation pour toujours surprendre son lecteur. Si les premiers albums comportent des situations déjà vues dans d'autres médias, on y décèle surtout de la part de l'auteur une capacité à digérer des codes et à reproduire une recette efficace. Le tome 23 des Légendaires devrait sortir en octobre de cette année et, selon les rumeurs, conclure la saga principale. Mais rassurez-vous, si vous êtes fan de la saga, de nombreux spin-offs ont vu le jour et devraient vous permettre de profiter encore de vos héros pendant un certain temps. Le premier de ces spin-offs des légendaires a vu le jour en 2010 lorsque Patrick Sobral a rencontré l'artiste Nadou, dont il avait découvert le blog une année auparavant. Le fruit de cette collaboration, ce sera une série de 5 albums basés sur les origines des protagonistes principaux de la série. Chaque album sera consacré exclusivement à l'origine d'un des personnages du groupe de héros. toujours scénarisé par Patrick Senadou, qui aura la lourde tâche de présenter ses origin stories. En présentant des personnages beaucoup plus adultes, le ton se veut donc plus mature. Même si l'histoire principale de la série n'est pas uniquement enfantine, le dessin en adoucit fortement le propos. Dans les légendaires origines, le trait est donc plus adulte. Si l'on présente quand même des personnages dans leur enfance, il n'abordera pas le dessin plus propice à l'humour de Patrick Sobral. Ici, les couleurs prennent des teintes plus douces, sentiment renforcé par un usage des dégradés beaucoup plus présent que sur la série principale. Cette collaboration ne durera hélas que le temps des 5 tomes, qui à eux seuls peuvent suffire comme point d'entrée à l'univers des légendaires. En 2016, nouvelle série articulée sur les légendaires qui paraît toujours aux éditions Delcourt. Mais loin d'enrichir la déjà très imposante histoire principale, cette nouvelle série va venir se moquer allègrement de ses protagonistes principaux, ou non, créateurs et lecteurs. En effet, sobrement intitulé « Légendaire Parodia », ces albums sont donc des parodies où l'absurde partage l'affiche avec la référence. Au cours des 5 albums que compte actuellement la série, ce sont des sketchs en une ou plusieurs pages, voire parfois des gags en une seule page, que les lecteurs assidus de la série vont pouvoir savourer. En effet, si vous n'êtes pas familier de l'univers des légendaires, vous risquez de ne absolument rien comprendre, tant les deux sont absolument indissociables. Véritable de moments de détente, les gags sont principalement centrés autour du caractère des personnages, fortement exagérés, à un point parodique. Et j'imagine qu'avec le titre, vous l'aviez déjà deviné. Autour de moments de création, par exemple la disparition d'un personnage parce que il était dur à dessiner, ou simplement de l'interaction entre les créateurs et ses fans. Puisque oui, le créateur s'auto-parodie dans ses albums où décidément rien ne semble interdit. Véritable despote, le maître Pamplemousse, incarnation de Patrick Sobral himself, y est alors décrit comme un auteur tyrannique doté d'un incommensurable melon. Adepte de l'autodérision, il se fera pourtant parfois malmener par ses propres personnages avec lesquels il interagit alors dans les pages. Afin de renforcer le trait humoristique, les personnages sont dessinés de manière SD, une façon de représenter les personnages de manière super déformée, directement inspirée de la tradition japonaise. Au niveau du dessin, Patrick Sobral a donc su s'accompagner avec justesse de Jessica Jung, une dessinatrice dont les influences similaires aux siennes sont capables de s'adapter aux contraintes de ce genre d'exercice. L'alchimie entre les deux auteurs fonctionnant tellement bien que Patrick Sobral lui confiera la co-écriture des épisodes de Parodia. Comme je disais précédemment, si l'ensemble semble plus destiné aux fans de la série, il est quand même possible de retrouver tout au long de l'album des clins d'œil et références à la pop culture dont nombreux sont issus de la génération Clubdo ou tout du moins quarantenaire. Et c'est sur ce dernier point que j'ai personnellement une interrogation. Pour un adulte de mon âge, ce sont principalement les références aux légendaires qui parfois m'échappent. N'ayant pas une connaissance suffisamment pointue de la série, je n'ai pourtant aucun souci à reconnaître certains clins d'œil ou références à des séries parfois oubliées de mon enfance. Et j'ai du mal à concevoir que ces mêmes références, qui à moi parlent également au public cible de la série dont je n'imagine pas la moyenne d'âge au-delà de 20 ans. Alors que l'on soit dans l'une ou l'autre des catégories, l'ensemble reste cependant plaisant à lire et divertissant, hein, quoiqu'un tantinet frustrant lorsque le comique de la situation référencée nous échappe alors. En 2019, un nouveau spin-off de la série sortait, consacré cette fois-ci au principal antagoniste des légendaires. Oui, si vous avez bien suivi... Oui, c'est ça, j'entends la réponse là-bas au fond, il s'agit effectivement de Darkel. Ce premier tome d'une série qui devrait, j'imagine, en contenir plusieurs, se focalise sur la jeunesse et l'accession au pouvoir de ce futur trouble fête, ce sorcier maléfique qui causera la catastrophe Jovenia. Se déroulant 100 ans avant les événements de la série principale, elle nous permet de découvrir le monde sous un angle neuf. Mais elle nous brasse également un portrait plus nuancé que celui de simple mégalomane maître du monde que représente le sorcier noir. Toujours scénarisé par Patrick Sobral, le dessin est cette fois-ci confié à Orpheline. J'avoue que je ne sais pas vraiment comment prononcer ce pseudonyme. Quoi qu'il en soit, celle-ci ayant travaillé 12 ans dans le studio d'animation a toujours continué à travailler sur la bande dessinée en parallèle, hein, ce qui faisait d'elle une illustratrice idéale pour développer un graphisme cohérent avec la tonalité beaucoup moins bon enfant que celle de la série principale. Dans les chroniques de Darkel, la dessinatrice présente un trait beaucoup plus sombre et mature ainsi qu'un ancrage plus marqué qui dénote avec la série principale. N'ayant pas l'occasion de lire l'album dans son intégralité, je n'approfondirai pas plus cette critique, ne voulant pas en dire ni du bien ni du mal, je ne me baserai que sur les quelques pages que j'ai pu parcourir et qui pourtant donnaient beaucoup envie. Alors si cette présentation plutôt exhaustive donne déjà un aperçu du développement considérable de cette série et de son univers, sachez qu'il existe également une série animée reprenant une partie de l'histoire. Celle-ci est disponible sur la plateforme Netflix, dispose d'une animation qui est ma foi fort efficace et d'un doublage plutôt convaincant pour une production française. Je suis plutôt difficile, on va dire, sur les doublages à la française. Mais si une déclinaison en série animée peut paraître évidente, il existe également une itération des légendaires en roman, en livre dont vous êtes le héros, mais également en jeu de société. Alors je ne veux pas du tout parler de ces trois adaptations, puisque je ne les ai pas eues en main et je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Quoique le jeu de société, si j'ai l'occasion, je n'hésiterai pas du coup à peut-être vous en reparler plus tard si j'arrive à me le procurer. Allez, sachez que c'est pas fini puisque sur le site officiel de la série, où l'auteur échange régulièrement et fournit des informations à ses fans, il est annoncé, sans date de sortie actuellement, la mise en production d'un film d'animation basé sur la saga de nos 5 héros. À l'avenir, nous aurons également sans doute l'occasion de parler de nouvelles séries des légendaires puisque deux spin-offs sont annoncés, les légendaires Résistance et les légendaires Stories. Mais revenons à l'actualité la plus récente, la sortie des légendaires saga tome 1, toujours par Patrick Sobral, avec cette fois-ci au dessin Guillaume Lapeyre. Sorti il y a quelques semaines aux éditions Delcourt-Tonkam, l'éditeur de la série principale, logique, il s'agit d'une refonte de l'histoire principale, mais au format manga. Si l'histoire est semblablement la même que celle de la saga principale, la refonte permet de retravailler certains défauts et certains petits détails que Patrick Sobral considérait comme ratés. C'est l'occasion de corriger éventuellement la disparition d'un personnage de manière beaucoup plus rapide, mais également de réinterpréter de manière plus fluide et beaucoup plus dynamique quelque chose qui était déjà plutôt pas mal fluide. Mais le format manga permet de donner une nouvelle dynamique au combat, puisque le format s'y prête de manière beaucoup plus efficace. Une efficacité renforcée par le trait de Guillaume Lapeyre, qui a déjà pu s'illustrer sur des mangas, alors pas forcément des mangas que de combat, mais des mangas comme City Hall, où il y avait déjà quand même de l'action de manière assez efficace, et il savait rester lisible dans ces moments, et on ressent effectivement cette lisibilité à travers les légendaires sagas. L'occasion également de rajouter une petite couche d'humour, puisque des personnages un petit peu incongrus, comme certains trolls, une rencontre dans la saga, dans l'histoire principale avec un troll, ici il y en a trois, et ça a l'occasion de faire une petite scénette humoristique qui va rajouter un petit peu de piquant, un petit peu de sel à cette séquence. D'ailleurs, Guillaume Lapeyre tient à le signaler dans le rabat où il utilise, sur les mangas habituellement, à l'intérieur du rabat, l'auteur s'adresse directement au lecteur et lui donne une petite note d'intention. Et du coup, Guillaume Lapeyre, le dessinateur, qui a dû sans doute avoir son mot à dire sur la scénarisation, il explique au lecteur que toutes les blagues drôles ont été écrites par Patrick Sobral, par contre les autres, elles sont de lui, et bonne lecture. Je parlais d'ailleurs du rabat puisque les éditions Delcourt ont eu l'ingénieuse idée de faire une couverture double effet, une étant dessinée par Patrick Sobral, l'autre ayant été dessinée par Guillaume Lapeyre, ce qui fait que vous pouvez choisir celle que vous souhaitez mettre en avant dans votre bibliothèque pour votre plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir des fans. Et puis si vous voulez mettre les deux en avant dans votre bibliothèque, faut acheter deux fois le tome ou alors vous l'enlevez et ce serait dommage parce qu'il y a un joli effet en plus de vernis sélectif qui rend cette couverture assez agréable. Pour ma part, j'ai opté pour celle de Guillaume Lapeyre, lui trouvant un côté un petit peu moins classique et plus approprié au manga. J'ordonne les références, les légendaires sagas de Patrick Sobral et Guillaume Lapeyre. C'est sorti il y a quelques semaines et c'est aux éditions Delcourt-Tonkam. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le dernier Chaka Ponk et on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. ¶¶
sure you would find another flame. Cause I need the fame to make my day.
Right now I'm FG Monday.
Kisses, I'm a pinky, wanna kiss it. I'm a pinky, wanna coma, people pasta, wanna funky, from the monkey. Pieces, I'm a sticker, from the corner, in my casa, wanna hasty. I'm just a funky, junky monkey.
Why, Sam?
You gotta understand me. I'm just a funky, junky monkey.
Sur le 101.5 de Radio G, vous venez d'écouter Chaka Ponk avec Funky Junky Monkey. Allons du côté du pays du soleil levant avec deux mangas, deux séries à suivre. La première, il s'agit d'Arte de Kei Okubo, publié aux éditions Komiku en France. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série qui commence déjà à dater un petit peu, il y a actuellement 9 tomes sortis en France et la série est toujours en cours au Japon avec 13 tomes. L'histoire est celle d'Arte, une jeune femme de bonne famille qui, en pleine renaissance à Florence au XVIe siècle, va décider de vivre de l'art. Elle souhaite devenir une artiste. Manque de peau, à Florence, en pleine renaissance, une fille, elle doit apprendre à devenir une bonne épouse et rien d'autre. Une époque définitivement dure pour les femmes et celles qui ont envie de pouvoir s'émanciper. Arte va donc se faire jeter malproprement par sa maman et elle va aller toquer gentiment à la porte de tous les ateliers d'art en disant « Écoutez, moi je veux bien je veux bien devenir apprenti et faire comme tous vos apprentis, travailler pour devenir une artiste. Et d'atelier en atelier, elle va se faire renvoyer proprement dans les roses, puisque une femme n'est pas capable d'accomplir un travail un travail artistique, travail de sculpture, travail de préparation du bois, des choses qui sont globalement assez éprouvantes. Mais c'est bien mal connaître Arte qui, elle, a décidé qu'elle deviendrait artiste et qui va tout faire pour y arriver. Elle va finir par tomber dans les pattes d'un maître qui n'a pas Elle va finir par tomber dans les bras d'un maître qui n'a aucun disciple, aucun apprenti. Celui-ci, par défi, lui dit « Écoute, t'es mignonne, tu veux devenir artiste, bon, tu sais que c'est dur ? Ouais. Bon, tu vois les plaques là ? Donc c'est une préparation, ce sont des plaques en bois sur lesquelles il faut faire une préparation pour pouvoir appliquer de la peinture et faire un travail dessus. Et ben, tu me les prépares pour demain. Il y a, je crois, il y a 20 plaques, je ne sais plus combien il y en a. Et Artel dit ok. Le gars s'en va. On revient. Et puis, lui, dans sa tête, il se dit bon, je vais confier une tâche impossible. C'est dur, c'est fatigant. Elle va s'en aller. Et puis, tant pis, quoi. Et quand il rentre dans son atelier, il retrouve Arte évanoui sur le sol de fatigue et les fameuses plaques toutes préparées, enduites, prêtes à être travaillées pour faire de la peinture de la plus belle manière. Et là, un petit peu coincé et aussi un petit peu épaté, ce monsieur va décider de prendre Arte sous son épaule pour pouvoir le faire commencer son apprentissage. Alors, il va pas le faire de la manière la plus délicate, il est toujours brusque, il est bourru, mais Arte étant suffisamment volontaire et téméraire, elle va tout faire pour pouvoir continuer à gagner sa croûte et devenir une artiste talentueuse. Au contact de son maître, elle va également rencontrer de nombreuses personnes qui vont lui permettre de s'épanouir, quitte à faire des voyages jusque dans des régions qu'elle n'aurait pas imaginées. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Sébastien tu nous parles de ça maintenant? Il faut savoir que Arte vient d'avoir la chance d'avoir une adaptation en série animée. J'ai eu l'occasion de regarder quelques-uns des épisodes et c'est plutôt agréable. Alors c'est assez peu surprenant si vous connaissez déjà le manga, mais le studio d'animation Seven Arcs qui s'occupe de l'adaptation a fait un beau boulot et on a retrouvé vraiment le trait. Alors j'ai oublié de vous en parler juste avant, mais on a un trait très doux, très rond. Je sais pas comment dire, on a vraiment cette espèce de... Il y a un côté très féminin dans le trait. Alors je crois que c'est une autrice et pas un auteur d'ailleurs, mais il y a un côté assez agréable et très précis, ce qui est intéressant, puisque effectivement on parle d'art. Ça aurait été dommage d'avoir un dessin qui ne soit pas suffisamment aiguisé et précis pour parler d'art, mais du coup on a vraiment un côté un peu gravure par certains aspects qui ne nuit pas au charme de l'œuvre générale. Voir tout ça animé et colorisé permet d'offrir un nouveau départ à cette série qui mérite vraiment le coup d'œil. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à foncer. C'est aux éditions Komiku, c'est de Kei Okubo, ça s'appelle Arte. C'est vraiment très agréable. Si vous aimez l'art, si vous aimez la Renaissance, n'hésitez pas, ce sera pour vous certainement un coup de cœur autant que cela a été pour moi. Beaucoup moins drôle maintenant, je vais vous parler d'un manga scénarisé par Shikara Kimizuka et dessiné par Yen Yoka qui s'appelle Anonyme, c'est aux éditions Soleil Manga. Et là on est dans quelque chose qui est beaucoup moins rigolo puisqu'il s'agit d'une histoire de meurtre. C'est l'histoire de Takashi, un jeune garçon à qui tout sourit. Il vient d'intégrer l'équipe de baseball de son collège. Il vient de déclarer sa flamme à la fille qu'il aime. Celle-ci semble plutôt d'accord. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais voilà, Takeshi va découvrir quelque chose qui fait qu'il va tuer à coups de batte de baseball l'un de ses professeurs. Condamné, il va passer plusieurs années dans un centre de détention pour jeunes. Et puis, considéré comme lavé de ses... de son crime, il va réintégrer une école de manière complètement anonyme, comme le titre l'affiche, et recommencer à essayer de vivre une vie normale. Mais voilà que le passé va finir par le rattraper. Et lorsque ses nouveaux camarades de classe apprennent qu'il est le fameux élève X qui a tué son professeur à coups de batte de baseball, tout le monde se met à l'éviter. Et le cauchemar recommence. Le manga anonyme soulève bien des questions et n'apporte pas pour l'instant de réponse, si ce n'est une réflexion importante de la part du lecteur. En effet, Takeshi est considéré comme ayant purgé sa peine. Est-ce qu'il n'a pas le droit, au contraire, de redémarrer, comme tout le monde, une vie normale, loin de ce crime qu'il a commis? Ce manga aborde des thématiques peu souvent développées. Est-ce qu'on peut, suite à un crime, considérer qu'une fois la peine purgée, on peut repasser à autre chose, ou au contraire, est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose que l'on nous reproche toute notre vie, quitte à rester emprisonné de ça de manière régulière? Ça aborde également l'impact d'un crime sur les proches de la personne qui a commis le crime. Elles y sont pour rien. Est-ce qu'on le doit leur faire payer ce genre de comportement? Takeshi a commis un crime. Est-ce que sa maman, est-ce que sa sœur ont besoin de subir aussi la vindicte populaire suite au crime commis par Takeshi? Mais également aussi une thématique différente abordée et qui, à mon sens, est un peu plus complexe, celle de des causes et des culpabilités. Takeshi, son crime, il l'a commis sur un coup de tête, mais il y a une explication à ça. Sauf que ce soit Takeshi ou une autre personne, ils ne sont que deux à connaître l'explication réelle du crime de Takeshi, et Takeshi le tait, l'autre personne ne le dit pas non plus, et il pourrait être... Est-ce qu'on peut être excusé d'un meurtre? Mais il pourrait avoir des circonstances atténuantes à son crime si une personne expliquait la situation dans laquelle s'est retrouvé Takeshi. Ce sont des thématiques qui sont globalement très dures, qui font que ce manga est assez impactant. Un manga qui a le mérite de poser des questions sans pour autant tomber dans le glauque. Mais effectivement, ce sont des on a un côté un peu thriller, puisque la personne qui va rendre public le passé de Takeshi, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle gagne à faire ce genre de... à mettre Takeshi et son entourage, hein, par la même occasion, dans un embarras assez extrême. On ne sait pas ce qu'elle y gagne, et ça va nous mener, cette enquête va pouvoir nous mener dans la réflexion concernant la culpabilité de Takeshi. Graphiquement, c'est plutôt fin. On a un trait qui irait plutôt pas mal dans du shoujo, avec des petits moments d'action et de violence assez intenses. C'est pour ça que le livre est conseillé à un public averti. Et on a vraiment quelque chose j'ai vraiment trouvé ça de manière assez impactante, et c'est vraiment très très agréable à lire et à découvrir. J'attends la suite avec une certaine impatience, puisqu'il faut savoir en plus que ce sera une série assez courte qui s'achèvera en 4 tomes. N'hésitez pas, c'est vraiment très très agréable. C'était une bonne surprise, hein, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai eu plutôt une bonne surprise avec cette histoire. Encore encore une fois, hein, l'éditeur, là c'est publié aux éditions Soleil, mais l'éditeur joue avec, avec la jaquette du manga, puisque celle-ci représente un personnage couvert de sang, une main sur la joue comme s'il s'essuyait, et on a cette espèce de barre d'anonymat qui lui a été mise au niveau des yeux, un petit peu... comme on peut le voir dans certains reportages où on décide de masquer juste les yeux comme si ça suffisait à masquer l'identité de quelqu'un, et cette barre n'est pas présente sur la couverture derrière le rabat, laissant apparaître le visage de Takashi. Mais bon, comme c'est son histoire, j'imagine que vous vous doutiez que c'était lui sur la couverture. Il y a la même chose, le même effet derrière, au dos de la couverture, ce qui fait que ça rend franchement bien. Je redonne les références. Anonyme, c'est un scénario de Shikara Kimizuka et c'est un dessin de Yen Iyoka, et c'est aux éditions Soleil Manga. On refait une courte pause et je vous propose une reprise de la chanson Rape Me de Nirvana par Wax et LG, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Wax, qui s'est spécialisé un petit peu dans les reprises de manière assez efficace.
Radio G 101.5 FM.
Vous venez d'entendre Rape Me, la reprise par Wax et L.A.G., la reprise du morceau fabuleux de Nirvana. Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb, et on aborde la partie comics de l'émission avec ce soir un ouvrage que j'avais hâte d'avoir entre les mains et je n'ai pas été déçu. Il s'agit d'Arline de Stepan Sejic, je suis sûr que je le prononce très très mal, et c'est aux éditions Urban Comics dans la connexion Dark Label. Black Label, pardon, de chez Urban Comics. De quoi ça parle ? Alors, ça parle, c'est une origin story d'un personnage énormément médiatisé depuis quelques temps, puisqu'il s'agit d'une origin story de la fameuse Harley Quinn. Harley Quinn, second couteau, ce personnage faire valoir, et c'est à la fois faire valoir et souffre-douleur du Joker, le célèbre antagoniste de Batman. Alors, si je disais qu'Harley Quinn est énormément populaire en ce moment, c'est surtout puisque depuis le Suicide Squad et l'interprétation de Margot Robbie, le personnage a été déjà remanié à beaucoup de sauces et retravaillé d'essais. Alors, que ce soit lié à Suicide Squad ou pas, lui a déjà octroyé de nouveaux reboot, revival. On en avait parlé dans une émission précédente suite au roman graphique qui était sorti chez Urban Comics, dans la collection c'est Urban Graphics. Et là par contre on est sur dans ce Harleen, on est sur une réinterprétation de l'origin story, mais de la manière la plus classique qu'il est, puisque l'origin story est exactement la même que celle dans laquelle Harleen, la fameuse Harley Quinn, fait son apparition. C'est la même histoire que celle qui est développée dans la série animée, puisque je rappelle qu'Harley Quinn est apparue dans la série animée de Bruce Timm. Pourquoi j'attendais beaucoup cet ouvrage ? Déjà parce que Harley Quinn est un personnage qui selon moi est extrêmement intéressant. C'est un personnage fragile, c'est un personnage cassé, c'est un personnage dépendant, et c'est un personnage qui est à la fois complètement dingue, voire peut-être beaucoup plus dingue que le Joker, puisque elle, son seul garde-fou c'est le Joker, qui lui est complètement centré. Le deuxième point, c'est parce que Stepan Sejic, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'ai découvert en lisant Sunstone, que vous pouvez découvrir aux éditions Panini Comics. Et Sunstone, c'est une histoire d'amour dans le monde du sadomasochisme. Et c'est vraiment très, très, très bien. Et comme j'adorais Sunstone, j'avais commencé à lire d'autres travaux de Stepan Sejic, et j'avais vu l'annonce du travail de Stepan Sejic pour DC Comics sur cet album solo Harley Quinn qu'on lui avait confié, et vraiment je me suis dit tiens, c'est une très bonne idée. Alors il faut savoir que Stepan Sejic avait déjà eu l'occasion de travailler sur le personnage d'Harley Quinn dans un autre comics, et que c'est lui qui avait eu envie en fait de faire cette adaptation. Et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Hein. Si l'histoire, c'est celle de cette jeune femme, Harleen Quinzel, une jeune femme un petit peu fragile, un petit peu timide, qui va faire des études de psychanalyse. Alors, je ne suis pas tout à fait au point. Je crois qu'il y avait les psychiatres. Et elle va commencer à essayer d'identifier pourquoi certaines personnes sombrent dans la folie, et le fonctionnement des mécaniques de super vilains. Pour les besoins de sa thèse, elle va demander à diagnostiquer et avoir des entretiens avec les résidents de l'asile d'Arkham. L'asile d'Arkham, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers du Dark Knight, c'est l'endroit où on va enfermer tous les super vilains psychopathes que capture Batman. Et Harleen Quinzel va commencer à faire des entretiens, à essayer de comprendre, à essayer de discuter, à essayer de creuser un petit peu, voir si sa théorie tient un petit peu la route. Et elle redoute un entretien. l'entretien avec le Joker. Joker qui bénéficie déjà d'une aura assez, assez dingue à ses yeux, mais un personnage qui lui fait extrêmement peur. Ce qui fait qu'elle repousse cet entretien. Et puis vient ce fameux jour où elle va pouvoir enfin le rencontrer et discuter. Et la rencontre avec le Joker va lui donner une image assez différente. Elle va voir un homme qui, au-delà du super vilain, est plutôt un homme fragile, un homme un peu faible, meurtri par la vie. Et elle va lui trouver petit à petit des excuses. Et c'est ça qui est génial, c'est que, avec toute la sensibilité qu'il est capable de développer dans l'univers du sadomasochisme, Stjepan Sejic arrive à, de nouveau, broder une histoire d'amour, une histoire d'amour douloureuse. Et on a cette espèce d'histoire d'amour, on sait que ça va mal finir, on sait que ce ne sera pas une belle histoire d'amour. Mais on a quand même ce côté un peu romantique. Et c'est vrai que sous les traits de Stjepan Sejic, on a un Joker qui n'est pas un mania du crime, qui n'est pas un monstre sanguinaire. On a plutôt un personnage qui effectivement dégage une espèce de charisme magnétique animal. Ce côté un peu bad boy, mais cette pointe de fragilité en dessous qui fait que... on a juste l'impression de quelqu'un qui a mal tourné et il suffit de peu de choses pour le mettre sur le chemin de la rédemption. Mais vraiment, on a quelque chose de très très bon qui fonctionne de manière très efficace. Et même si on connaît l'histoire, hein, si ceux qui ne la connaissent pas, on la découvre avec, à mon avis, autant de plaisir que moi. Et on a vraiment cette histoire du point de vue d'Arlene, et de sa psychologie. Je me suis un petit peu attardé sur l'histoire, mais graphiquement, moi, je trouve ça très très beau. Hein. C'est une façon, il y a un côté très fin, il y a un côté très agréable, il y a une sensualité en fait dans les pages qui fait que, un petit peu comme Harley, on tomberait presque amoureux de ce Joker qui a un côté charismatique vraiment assez. Assez magnétique, assez animal, qui fonctionne très très bien. L'histoire en plus prend le temps de se recadrer. Harlene Quinzel va découvrir d'autres personnages iconiques de l'univers de Batman dans des moments assez importants de leur vie. Moi j'ai vraiment adoré. Je n'ai qu'un seul reproche, c'est le fait que l'éditeur n'ait pas choisi de faire une surjaquette comme sur l'édition américaine, puisque Stjepan Sejic avait conçu une espèce de, pas de trompe-l'œil, mais de jaquette qui venait couvrir le visage d'Arlene Quinzel avec le masque souriant d'Harley Quinn, cachant la femme brisée qu'elle est à l'intérieur. Et je trouvais que c'était vraiment très très efficace, et effectivement j'aurais bien aimé retrouver cette jaquette dans l'édition française. En tout cas, vraiment un très très bel album, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. Ça s'appelle sobrement Arlene, c'est de Stjepan Sejic, c'est aux éditions Urban Comics dans la collection Black Label, et c'est vraiment très très bien, c'est pour lecteurs avertis, et j'imagine que vous vous en doutiez. That's all, folks. Vous l'avez entendu, c'est Porky. Il est bientôt 20h. C'est le moment de se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ces formats un petit peu au fil de l'eau avec ces dossiers sont des choses qui peuvent vous plaire. N'hésitez pas à en parler sur notre page Facebook, La Case de Seb, pour qu'on puisse échanger. Si vous avez des envies de chronique, si vous voulez venir chroniquer directement, écoutez, vous êtes les bienvenus. C'est aussi votre émission. Même heure, même endroit. Et puis surtout, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trop vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes le meurent!
contrôler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio G.